le CF Montréal, ils ont protégé les joueurs suivants pour le repêchage d'expansion qui va avoir lieu un peu plus tard. Alvarez, Breza, je ne sais pas pourquoi ils ont protégé Breza, mais quand même. Là. Bugay, Clark, Yankov, Sunuzi, Jabang, Opoku, Pierce, Piet, Vilsain et Waterman sont protégés. Évidemment, il y a des homegrown qui font partie de tout ça, qui sont automatiquement, ils font pas partie du processus de repêchage, qui est Sirois, puis il y a Alessandro Biello, Nathan Saliba, Redazuir, il y en a d'autres, Bryce Duke, Jekyll Marshall Rutty, George Campbell, et les joueurs suivants ont pas été protégés, puis sont éligibles pour sélection. Le gardien but Ketterer, Gabriel Corbeau, Grayson Doody, Raheem Edwards, Joaquin Sosa, Robert Torkelsen, les milieux de terrain, Iliadis, Lapalainen, Schiavoni et Wanyama, et les attaquants Joseph Martinez et Mathias Coccaro. Parmi tous ces joueurs-là, il y en a un qui est encore sous contrat pour la saison qui s'en vient, c'est Coccaro. Et lui, ça fait jaser hier. Donc, c'est pour ça qu'on a Nilton George de Couscous Piri Piri, Cannes Football Club et de One Soccer avec nous ce matin, notre collaborateur soccer. Salut Nilton, comment ça va?
Ça va bien, t'es chanceux Tony parce que j'ai pas eu le temps de... Je sais que toi, t'es habitué à ce genre de tweet-là, mais pour les auditeurs qui sont moins habitués, Sofiane et moi, de temps en temps, on sort des infos Couscous Piri Piri.
Oui.
J'ai pas eu le temps de la lancer sur Twitter, donc je dis ah tiens, je vais le rencontrer live dans le show de Tony.
Ah, dis-moi. Donc, et juste avant de le faire, il faut dire que toutes les équipes ne peuvent pas perdre plus qu'un joueur lors du repêchage à San Diego FC. Mais vas-y.
J'ai été informé dernière, c'est tout récent, là, que Ottawa, en CPL,
oui,
qui est à la recherche d'un nouvel entraîneur parce que l'entraîneur Ottawa a quitté. Ottawa aurait été intéressé à avoir David Sovry comme head coach.
OK.
David Sovry n'était pas intéressé au poste. Montréal n'aurait pas refusé ce changement de à chaque fois que le club se voit offrir comme ça un de ses employés une amélioration de son état. Il n'aurait pas empêché David Sovry de quitter l'organisation pour aller devenir head coach ailleurs, mais Sovry n'était pas intéressé à s'en aller en CPL pour devenir entraîneur adjoint, entraîneur principal. Mm-hmm. Mais en MLS, David Sovry est un nom qui est très, très populaire, pas seulement à Montréal. Je sais aussi que pendant la saison, justement en parlant de l'expansion et de San Diego, San Diego est intéressé à discuter avec David Sovry pour devenir entraîneur adjoint là-bas. À ce moment-là, pour ce genre de processus-là, il faut demander l'autorisation du club, mais le club n'a pas donné l'autorisation pour un changement poste pour poste parce que Montréal considère David Sovry comme un élément hyper important de son staff.
Ouais.
Il sait aussi que Sovry est très populaire en MLS. Pas seulement en MLS, on voit que la CPL... Ottawa, attention, là, c'est pas juste un petit club. Là. Ottawa était considéré en CPL en début de saison comme un super club parce qu'il y a l'Atlético de Madrid qui est derrière
mais
ça. Donc, ça aurait été un mouvement assez intéressant pour lui.
Oui, tu le fais bien de souligner parce que c'est intéressant ce sujet-là. Pourquoi? Parce que David Sovry, il est entraîneur assistant, comme tu viens de dire, avec Montréal, CF Montréal dans la MLS. Et s'il va rester en MLS, il y a des fortes chances que les autres clubs vont le voir comme encore un entraîneur assistant. Mais exact. S'il aurait pris le poste avec Atlético Ottawa comme entraîneur-chef, là, à ce moment-là, les autres équipes vont le voir comme un entraîneur-chef. Puis avec leur affiliation avec Atlético Madrid en Espagne, ça peut donner droit à certaines opportunités que, pas seulement comme entraîneur-chef, parce qu'il peut être aussi entraîneur adjoint, entraîneur assistant, mais avec un club dans une autre ligue, puis peut-être même en Espagne, pourquoi pas. Donc,
exactement.
C'est intéressant,
et
ça.
C'est, ouais, et c'est tout à l'honneur de Montréal de ne pas avoir empêché cette opportunité-là pour David Sovry. Ils sont probablement, ils ont discuté aussi avec David pour dire, on te considère, tu fais partie de l'organisation. Puis lui, il n'est pas fou. Il sait que dans une éventualité où ça ne fonctionne pas avec Courtois, ça peut être Sovry ensuite. Donc, Sovry n'est pas seulement un des assistants.
Oui.
C'est l'assistant principal de ce club-là. C'est lui, quand on va aux entraînements, c'est lui habituellement qui est le qui dirige les entraînements. David Sevry est une personne très, très importante à Montréal et avec une belle réputation à MLS. Mais sais aussi que, ben, y a pas une grosse surprise, le processus des entrevues pour les adjoints à Laurent Courtois ont débuté. Ils ont rencontré plusieurs personnes. Et même à l'interne, il n'y a pas seulement les options à l'externe. Puis, s'il y avait eu un indice dernièrement quand on a annoncé qu'il y avait 4 joueurs de l'Académie qui s'en allaient à Bologne pour un camp, il y a aussi un entraîneur qui part avec eux.
OK. C'est qui part?
Le Comte.
Ah, Maxime Lecomte, oui.
Et lui aussi a été rencontré dans le processus d'embauche pour devenir un assistant à Laurent Courtois. Donc, éventuellement, on devrait avoir beaucoup d'informations. Des fois, une fois que c'est décidé, comme Laurent Courtois avait été décidé l'année passée, quelques semaines, là, peut-être 2 semaines avant les fêtes, et ça a été long pour le contrat pour régler cette situation-là. Des fois, les informations vont sortir parce que ça a été décidé qui est embauché, tout ça. L'annonce officielle du club peut prendre un certain temps parce qu'ils font rencontrer la MLS, les contrats, et ainsi de suite. Donc, on devrait avoir beaucoup, beaucoup de nouvelles en plus de la journée d'aujourd'hui avec le draft de San Diego.
Nilton, moi, j'ai mon opinion, l'année passée, là, qu'est-ce que j'ai vu là? Il y a plusieurs matchs où est-ce que je me demandais si Laurent Courtois était prêt de changer sa formation, de changer son système, s'il était préparé pour voir si un joueur était jeté, s'il était préparé pour... Pour moi, j'ai vu beaucoup d'instances l'année passée où est-ce qu'il était un peu en retard à réagir. Ce qui est tout à fait normal pour un coach qui lui aussi est en apprentissage à tous les jours, là, qui coach au niveau professionnel pour la première fois. Moi, je pense qu'il a besoin d'un coach d'expérience à côté de lui. Là. Moi, je pense qu'il a besoin d'un coach avec beaucoup de vécu. Là. Tu parles de Maxime Lecomte, là, qui est un jeune entraîneur, qui travaille fort, qui est au niveau de l'académie. Je pense pas que c'est ça qu'il a besoin.
Mais il y a besoin de têtes différentes, il y a besoin d'expertise différente. Un entraîneur principal, c'est pas celui qui est expert partout. Là. C'est un jeune entraîneur aussi.
Oui, mais il y a besoin de quelqu'un de le challenger. Puis c'est pas tous les joueurs d'une académie qui vont challenger. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, tu sais, puis je te dis pas si c'est le cas pour Maxime Lecomte, loin de là. Moi, Max, je le connais un peu. C'est pas que je le connais bien au niveau personnel. Je le connais un peu. À un moment donné, il coachait au niveau amateur là, à Blainville, puis en tout cas, j'ai eu une discussion avec lui, mais tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive avec les jeunes entraîneurs, si jamais ils vont avoir le poste, ils vont toujours être d'accord avec l'entraîneur parce qu'ils vont se dire, tu sais, je vais être de son côté, puis si lui est là 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vais rester avec lui. Encore une fois,
mais Tony, il faut différents coachs. Il faut que l'académie produise aussi des entraîneurs. C'est partout pareil comme ça. Donc oui, si un Lecomte vient, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un d'expérience. Oui. Je suis convaincu qu'on va aller chercher du monde en Italie pour apporter cette expertise-là du côté de Bologne. Tu sais, la cellule Bologne, c'est pas seulement les joueurs, ça va être éventuellement le coach. Il faut entourer Laurent Courtois avec plusieurs têtes importantes, avec des forces différentes.
Puis l'académie peut produire des coachs. Ils l'ont fait avec Wilfried Nancy. T'sais, donc, il peut le faire encore. C'est juste que je pense pas que Max est la solution pour l'instant à côté de Courtois, mais j'espère pour lui qu'un jour, il va l'être puis il va pouvoir avancer sa carrière. OK. On parle des Sauvry. Et là aussi, tu t'as dit, Sauvry, ça se peut qu'il soit le prochain coach après Laurent Courtois. Là, ça dépend aussi. C'est quoi sa philosophie? C'est quoi ses idéologies? Est-ce qu'il voit le jeu la même façon que Laurent Courtois? Parce que si oui, puis si ça fonctionne pas avec Courtois à un moment donné, ça peut pas être lui. Si lui, il voit ça d'un différent œil, puis il y a différentes méthodologies, puis différentes idéologies, puis différentes choses, oui, c'est à ce moment-là, s'il peut être un candidat intéressant, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. OK, on va parler des joueurs non protégés. Quand tu as vu Coccaro sur la liste, t'as pensé quoi?
J'ai dit, ben, c'est comme 2012, quand Wanyama avait pas été protégé, comme Camacho avait pas été protégé, Johnson, Hamdi. Tu sais, oui, quand on voit ceux qui sont protégés, on peut se dire, ben, tu sais, tant qu'à faire, pourquoi protéger Breza? Pourquoi ne pas donner un signal positif à Coccaro comme quoi, bon, ça a été une année difficile, mais on croit encore à toi, on te protège. le signal qu'on donne à Cocaro, il n'est pas super positif.
Non.
Cela dit,
non.
Cela dit, à TFC, Toronto, c'est arrivé, il y a Insigne qui n'est pas protégé. Beaucoup de stratégies d'équipe MLS, ce qu'ils font, c'est que les gros contrats comme ça, on ne les protège pas parce qu'on sait que San Diego, leurs joueurs d'épée, ils ont déjà en tête qui va avoir comme joueur d'épée.
Ouais.
Montréal, quand ils regardent Breza, ils se disent « Bon, mais c'est un goaler canadien, ça coche une case, on n'a pas besoin de chercher un autre goaler comme ça, ça va être réglé. » On est probablement convaincu que Cocaro ne sera pas pris.
Ouais.
San Diego est déjà en ligne avec ses attaquants. Ils ont déjà signé Chucky Lozano, le
ouais.
Mexicain,
ouais.
qui tu le connais très bien, il jouait à Napoli, il a tout cassé à Napoli.
Ouais.
Il s'en vient. Cocaro n'est pas un joueur qui est intéressant pour San Diego. San Diego vise beaucoup plus haut en comme joueur d'épée. Mais,
ça, c'est sûr.
Mais au niveau public, dans les médias, les partisans, même au niveau personnel, j'ose croire que Montréal a discuté avec Cocaro pour expliquer le processus que, bon, peut-être qu'il savait qu'il y a tel joueur aussi qui ne sera pas protégé, de ne pas s'inquiéter, qui ne sera pas pris, qui ont peut-être déjà parlé à San Diego, qu'il n'y a personne qui va être pris à Montréal, qui ont déjà tous les plans en tête. Mais oui, tu sais, au niveau de l'image, c'est pas une belle image,
non.
Mais c'est pas si dramatique que ça. Faut pas commencer là. Faudrait pas que je commence à avoir déjà sur le chat Louis Grégoire, Louis de Villemercier nous dire que c'est un autre signe que le club va déménager.
Non, mais le problème avec Cocaro, c'est que malheureusement, peut-être la ville de Montréal n'est pas un bon fit pour lui.
Ouais, mais la ville de Montréal n'est pas un bon fit quand tu pars. T'sais, oui, il s'en vient ici, c'est un joueur.
On lui a
Cocaro,
donné.
Mais Cocaro,
ils avaient
le même style de vie un peu. Puis
ouais.
Un a fonctionné, l'autre n'a pas fonctionné.
Ça, c'est sûr.
Je pense qu'il est un peu tôt.
Mais un est bien meilleur que l'autre, là, tu sais.
Oui, mais ça, là. Ça, on ne peut pas te contredire. Mais dans le staff, on parlait de staff tantôt.
Oui.
L'important d'avoir quelqu'un dans le staff qui est capable de discuter avec ce genre de joueur-là.
Oui.
Cocaro, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était très, très isolé. L'intégration était compliquée. Il y avait la langue qui était compliquée pour les consignes.
Oui.
À Montréal, il n'y avait pas nécessairement un fit. Quand tu vas chercher un joueur à l'extérieur, il faut que tu vois aussi ce qu'il y a dans le vestiaire. Est-ce qu'il va bien s'intégrer dans le vestiaire? Est-ce qu'il y avait une intégration qui s'est bien faite avec Mathias? Est-ce que Mathias lui-même avait un problème de comportement dans le sens qu'il était un peu trop sanguin dans les entraînements puis que ça ne fitait pas avec le reste? J'ai pas encore totalement abandonné avec Cocaro. Mais je pense pas que Cocaro soit en danger.
Je pense qu'ils ont abandonné, par exemple. Mais dis-moi si je suis fou, parce que peut-être je suis fou. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une équipe en Amérique du Sud qui va payer un million pour ce joueur-là. Convaincu.
Wow. Ben, si ça arrive, si on est capable de faire comme on avait fait à l'époque avec Silva, go. J'ai beaucoup de misère à imaginer que Cocaro puisse obtenir le salaire qu'il y a présentement en MLS, quelque part ailleurs en MLS, et en plus de payer un transfert. Je serais extrêmement étonné parce que sa valeur actuelle est à son plus bas. C'est pas un joueur qui plantait 15 buts en Argentine.
Ouais, ouais,
obtenir 1 million, ça va être bravo au club s'il est capable de faire
ça. Oui, le salaire est élevé, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. D'autres choses, est-ce que tu es surpris d'autres noms?
Non, principalement, c'est tous des joueurs... Toutes des joueurs qui sont sans contrat. On voit tout de suite Edwards qui n'a pas eu de contrat. Je me demande à quel point. Edwards, sa situation m'étonne du début à la fin. Edwards, peut-être, ça avait été un joueur qu'on aurait eu intérêt à échanger directement ou avoir un deal. Peut-être que c'est ça qui arrive. Et on a un deal en place avec San Diego pour shipper Edwards là-bas. Son statut est très, très étonnant. Le reste des joueurs, c'est tous des joueurs qui sont en fin de contrat. Montréal a sécurisé, il faut dire qu'ils ont fait pas mal de ménage, ils ont sécurisé pas mal tous leurs joueurs. Heureusement, ils avaient beaucoup de homegrown, comme tu as dit, tous les joueurs issus de l'académie, pas seulement de Montréal, mais aussi les joueurs issus de l'académie MLS sont exclus de ce processus. Mais là, rapidement, avec le draft qui va avoir lieu ce soir, avec les agents libres qui commencent dès la semaine prochaine, et éventuellement, là, il y a le Combine MLS cette semaine en Californie avec le draft du collège vendredi de la semaine prochaine.
Oui.
L'effectif va augmenter tranquillement.
En passant, le repêchage, pour ceux qui veulent suivre ça, ce soir à 10h30, heure de l'Est. Donc, 22h30, heure de l'Est, le repêchage d'expansion pour San Diego FC. Ils vont être incroyables, hein? Puis ça va être un marché qui va être incroyable Moi, ça fait des années, des années, des années du monde dans le monde du soccer me parle de San Diego, que San Diego va être un marché incroyable pour la MLS un jour, puis là, boum, on est là.
Il y a des gros noms qui sont associés. Il y a même eu Kevin De Bruyne qui était associé. Là, oui. Les propriétaires, c'est aussi un propriétaire d'un club danois, je pense. Ils ont un processus d'embauche très, très, très solide. Ils sont proches du public mexicain en Californie. Ils veulent des gros noms. C'est pour ça que Cocaro n'est pas vraiment un joueur qui fit leur plan de recrutement. Quand tu vas chercher, quand tu décides d'avance que tu vas chercher un international mexicain de 29 ans qui te coûte avant salaire, qui coûte déjà 12 millions de dollars en transfert.
C'est quelque chose.
On voit que San Diego, Mais
le transfert coûte plus que le CF Montréal paye ses joueurs. Faut le dire, c'est un fait, là.
Vu comme ça, ça fait un peu mal. Mais c'est pour ça aussi que c'est positif de voir que, en fin de semaine, à mes yeux, que les Red Bulls, c'est pas l'équipe championne. Comme ça, on n'est pas obligé d'entendre le fameux discours « pas besoin de dépenser de l'argent pour gagner en MLS
».
Le Galaxy a dépensé de l'argent pour être champion. Juste le 11 partant, le 11 partant, c'est un salaire combiné de 12 millions. Là. Ouais. Et là-dedans, il n'y avait pas Ricky Pouille qui gagne 4,5.
J'ai dit à mon chum, ou j'ai dit à Max Truman l'autre jour, ça arrive souvent qu'une équipe qui ne s'entend pas pour être là s'en va loin dans les séries de la MLS. À la fin, par contre, plus souvent qu'autrement, c'est la meilleure équipe qui gagne.
Ouais, puis comme je l'ai dit, je ne sais plus où, les analytiques, c'est bien, mais un gros budget, c'est aussi souvent très bien aussi. T'sais. Juste aller chercher le 11 partant à LA Galaxy, en dehors des salaires, ça a coûté à peu près 30 millions en transfert.
Oui, c'est quelque chose. Par contre, il faut que je dise que quand même, l'équipe qui m'a donné le plus de plaisir à regarder jouer cette année, là, c'est sûr que Miami, là, ils nous ont sorti 5-6 matchs où est-ce que c'était incroyable. Là. Mais pour moi, l'équipe qui jouait le meilleur soccer, le meilleur foot, là, c'est le Crew de Columbus. Mais encore une fois, comment les Red Bulls ont réussi à les éliminer? Bon, je ne le sais même pas. Hey, t'as sorti quelque chose sur Joel Waterman il y a un couple de jours?
Oui, Waterman, une source très, très proche du club m'a dit que Joel Waterman, son salaire était au moins 700 000 $ Ensuite, le club m'a fait comprendre que ce n'était pas le cas, ce n'était pas 700 000 $ qu'éventuellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on sort les chiffres par l'association des joueurs, ce qui est écrit dans ce tableau-là n'inclut pas les bonus à la performance. C'est le salaire de base plus les bonus à la signature.
Ouais.
Donc, si de base, Joel Waterman gagne, disons, 500 000 $ et qui a obtenu, disons, un bonus à la signature de 100 000 $ ça va être amorti en les nombres d'années d'un contrat. Donc, ça se peut que sur ce tableau-là, Waterman, ça va être écrit, je ne sais pas moi, 550 000 $ Mais les bonus de performance, comme par exemple Joseph Martinez, les a obtenus, puis ça fait grimper son salaire. On ne saura jamais combien il a obtenu.
Nilton George, mon collaborateur soccer, et pour tout CF Montréal, de Couscous Piri Piri, Cannes Football Club, One Soccer, et tous les autres podcasts dans le monde, ce gars-là, il y a de l'argent qui rentre de partout, de gauche à droite. Ça se peut pas.
Pas tant que ça.
Merci, Nilton.
Ciao, ciao.
Bonne fin de journée, mon chum.